Voilà, vous avez reconnu le générique du Bit et du Couteau. On est donc avec le Tétalab et Laurent du Tétaneutral. Bonjour à tous.
Bonjour.
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 Nouvelle chronique.
Oui, nouvelle chronique. Alors, je ne sais plus à la combienième on est actuellement.
La 112e.
112e. Ouh, on a oublié l'anniversaire. on va faire comme d'habitude. On va faire une partie actualité et une partie dossier. Alors, je suis désolé, aujourd'hui, au niveau actualité, on n'a pas de news Adopi. J'ai bien cherché pourtant, mais je n'ai rien trouvé.
Oui, j'ai entendu une interview de Frédéric Mitterrand, donc notre ministre de la Culture, qui se gargarisait un peu sur les bons côtés d'Adopi, qui trouvait que c'était trop critiqué. Et pourtant, ça aide bien les artistes à faire valoir leurs œuvres. Enfin, il y a encore tout ce discours assez langue de bois qui continue à sévir, alors qu'on sait très bien que...
Oui, c'est ce dont on avait parlé la dernière fois, où même Sarkozy se félicitait de la baisse du P2P, mais en fait, c'était juste les gens se seront reportés sur des offres du style méga upload.
Puis même avec la baisse du P2P, on sait très bien que c'est pas les artistes qui en profiteraient, c'est les maisons de production, quoi.
Bien sûr. Et puis, vu le coût d'Adopi, on avait aussi sorti un petit calcul sur les salaires de la SACEM. Donc, on va commencer par des news un peu, des trucs un peu drôles pour changer. Donc, il y a Mega Upload qui a créé une vidéo à son honneur où on a des stars américaines comme Snoop Dogg et Alicia Keys qui chantaient les louanges de Mega Upload. Donc, ça aurait pu passer inaperçu, mais Universal a décidé en fait de censurer la vidéo sur YouTube. Donc, sous prétexte que Mega Upload utilisait du contenu leur appartenant. Ce qui est absolument faux, puisqu'en fait, Mega Upload a rémunéré les artistes pour faire cette vidéo. Donc, cette vidéo, elle aurait pu passer totalement inaperçue sans l'intervention d'Universal Music. Mais bon, c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Comment ça s'appelle ? Barbara Streisand. Donc, je vais laisser Alex nous expliquer l'origine du
spécialiste.
Barbara Streisand, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vu une photo d'elle sur Internet, c'était ça ?
Oui, de sa maison.
De sa maison.
Oui.
Et elle a demandé au site de la retirer, et du coup, cette photo-là s'est retrouvée diffusée sur à peu près tous les sites qui en avaient pas du tout entendu parler.
Qui s'en foutaient, mais c'était juste pour rigoler.
Voilà.
D'accord.
En plus, je crois que c'était un site d'un photographe ou d'un archéologue qui avait pris des photos du ciel, et il y avait sa maison au milieu du champ de la caméra. Donc bon.
Oui, c'est à se demander combien Mega Upload paie les juristes de Universal pour lui faire de la publicité. Mais...
On vit dans un monde tordu.
Ensuite, un site qui s'appelle, alors,
je regarde,
youhavedownloaded.com, et qui en fait, avec votre adresse IP, va vous donner tout ce que vous avez pu télécharger sur les torrents. Donc, on peut y mettre son adresse IP ou bien l'adresse IP de quelqu'un d'autre. Et donc, il y a un Américain qui s'est amusé à mettre les adresses IP de Sony Entertainment et de NBC Universal, qui est une chaîne de télé. Ils se sont aperçus qu'en fait, de chez eux, il y avait des choses qui ont été téléchargées par qui, on ne sait pas, sûrement par des employés. Donc en fait, en gros, c'est une illustration de « fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais ».
Il n'y a personne d'ailleurs qui a essayé en France.
Moi j'ai essayé avec l'adresse IP du ministère de la Culture, enfin ce qui est censé être son adresse IP, j'ai rien trouvé.
Okay.
Voilà, et même GMT, TMG, la boîte qui s'occupe d'Adopi, ce serait sympa aussi de retrouver leur adresse IP, de faire pareil. Quoi. Après en actu, je sais pas, Laurent, tu m'avais dit.
Alors le lendemain du précédent Bit et le Couteau, il y a eu un jugement important de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'affaire Scarlett Extended vs SABAM. Alors je précise un petit peu. La SABAM, c'était plainte de transmission non autorisée d'œuvres Donc la SABAM, c'est un équivalent de la SACEM en Belgique. Et donc avait demandé au juge d'ordonner aux fournisseurs d'accès Internet de filtrer, de mettre en place des mesures techniques pour filtrer ces échanges non autorisés d'œuvres couvertes par le droit d'auteur. En appel de cette affaire, le juge a envoyé la question devant la Cour de justice de l'Union européenne et en demandant au juge, donc je cite le site de la Quadrature, « Le droit européen autorise-t-il un juge national à prononcer à l'encontre d'un FAI une injonction de filtrage de toutes les communications électroniques passant par son réseau et ce à titre préventif ?» Et le jugement a été particulièrement clair, c'est non. Un FAI n'a absolument pas le droit de filtrer de manière permanente, continue et complètement a priori. Et ce, évidemment, avec tout ce que défend la Quadrature et beaucoup de gens et les citoyens, c'est le respect de la liberté, d'expression, de la vie privée. Donc cette tentative d'établir une police du net privée, généralisée et sans contrôle a échoué.
Très bien. Ils ont l'équivalent d'Adopi en Belgique ?
Je ne sais pas.
Ouais. Alors, au niveau européen, sinon
Je ne sais pas. En Belgique, la seule chose que j'ai apprise, c'est que quasiment tous les accès à ADSL sont en paiement au volume.
Ah oui.
Donc une petite originalité de quelque chose qu'on a pas en France. Parce qu'en France, bon, on a un débit à peu près au maximum de la ligne, quel que soit l'opérateur, et on n'a pas encore de limitation en volume.
On l'a pas eu à une époque sur le câble au début du câble.
Oh, c'est possible, oui.
Mais au tout début, c'est vrai que c'était limité. Ouais. Après, c'est devenu illimité avec Free.
On a été limité en heures au début. Je me souviens au début du modem avec AOL et tout ça. Après, peut-être c'était quand j'étais en Angleterre où il y avait une limitation sur le débit du câble, où il y avait tant de gigas attribués par mois, il ne fallait pas dépasser la limite.
Mmh. D'accord.
Moi, c'est toujours pareil sur le mobile. Hein. On est toujours sur un système de volume sur le mobile.
Sur les 3G, là.
Oui. Il y avait d'autres actus.
Donc, l'autre actualité, c'est le 28C3, c'est l'event organisé par le Chaos Computer Club à Berlin qui aura lieu du 27 au 30. Au 30 décembre, dans deux semaines. Donc c'est la grosse conférence de l'année organisée tous les Noëls à Berlin par le Chaos Computer Club où il y aura des conférences toute la journée de 10h à 22h avec des sujets intéressants comme un dossier technique sur l'Atari 2600, la keynote qui est en général un gros événement pour ouvrir le festival avec un auteur qui s'appelle Evgeny Morozov, qui est un auteur qui parle pas mal de politique, de cybercriminalité sur Internet. Et voilà, pas mal de trucs par rapport au do-it-yourself, au nouveau changement de société numérique dans l'année, et voilà, des expériences par rapport à ce qui s'est passé dans l'année autour du numérique et du cyberactivisme et du hacking.
D'accord.
Qui aura lieu dans deux semaines et qui est visible sur Internet en permanence sur du streaming. Donc voilà.
Les conférences. D'accord. Sur le site, donc, CCC.
Sur le site, c'est events.ccc.de.
D'accord.
Et vous pouvez suivre l'émission Le Bit et le Couteau sur canalsud.etala.org. C'est un pad où vous pouvez participer en direct à l'émission.
On passe au dossier ou on fait une coupure musicale? Bon, allez, on y va. Donc moi j'ai préparé un petit dossier sur les spy files et WikiLeaks. Donc WikiLeaks, tout le monde connaît, ils ont été connus il y a pas longtemps pour avoir divulgué tous les câbles diplomatiques américains depuis les années 60. Donc là ils récidivent, mais avec les modes d'emploi, tout ce qui est brochure en fait des logiciels d'espionnage au niveau mondial. Donc là, je me suis appuyé sur des dossiers de ovni.fr, qui est en passant un très très bon site de journalisme, qui en fait sont associés avec WikiLeaks pour la sortie des spy files. Donc en fait, ils ont créé un site qui s'appelle spyfile au pluriel .org, où là, on a une carte interactive du monde avec les pays qui éditent des logiciels de piraterie. Donc en fait, en gros, on a surtout des éditeurs de logiciels qui sont implantés dans des démocraties. Donc, comme d'habitude, les vendeurs d'armes, ce sont les démocraties et on les vend à des pays du tiers-monde. Donc, sur ces logiciels, on a, si vous pouvez aller voir la carte, on a 6 modes de logiciels. On a ce qui est la surveillance Internet, la surveillance téléphonique et mobile, les trojans. Alors, les trojans, on reviendra après pour expliquer un peu ce que c'est. L'analyse, le speech analysis, qui est l'analyse téléphonique des paroles, la surveillance SMS et le GPS tracking, c'est-à-dire la localisation d'équipements GPS. Donc en France, il y a pas mal de sociétés qui sont basées aux États-Unis, mais en France, on en a pas mal, on en a 8, dont on a Alcatel, qui eux sont plus spécialisés dans la surveillance des mobiles, Cosmos, Thales, qui font de l'internet et du mobile, Axacom, Amesis, qui est une branche de Boule, et je parlerai plus longtemps d'eux après, Scanet Target, Septier et Vupen, eux qui sont spécialisés juste dans les trojans. Donc parlons d'Amesis, qui est un fleuron technologique français. Donc en fait, eux, ils sont une filiale de Bull, et ils sont surtout spécialisés dans tout ce qui est armement de défense, appareils pour capter des signaux satellites. Et ils ont été connus surtout parce qu'ils ont créé un 4x4 suréquipé qui permet en fait de brouiller tous les signaux aux alentours. Et ce 4x4 qui s'appelle Shadow a été vendu à Kadhafi et apparemment il lui aurait servi à s'enfuir avant d'être bombardé et être attrapé. Donc si vous voulez voir ce magnifique 4x4, vous pouvez aller sur shadow.amesis, amesis c'est écrit avec un y.fr. Il y a une magnifique vidéo digne d'un bon film d'action et ils expliquent tout le fonctionnement de leur joli 4x4.
Et quand tu parles d'une filière de bulles, c'est l'entreprise avec un arbre là des années 80?
Ouais,
c'est toujours vivant, ça.
Oui, c'est toujours vivant. En fait, Bull a racheté cette société. Et le président qui s'appelle Philippe Vanier était PDG de cette société et ensuite est devenu PDG de Bull récemment, j'ai pas la date.
D'accord.
Donc eux, en gros, ils ont décroché plein de contrats en France. En 2007, ils ont décroché un contrat de 100 000 euros pour la DRM, qui est la Direction du Renseignement Militaire. En 2008 également, pour 837 000 euros pour un système d'interception satellite. En gros, un système qui permet de capter les échanges entre les satellites et les paraboles. Et donc, pour noter, c'est qu'en fait, il y a des hackers qui ont démontré que pour 50 euros, en allant à Casto acheter une antenne râteau, on pouvait faire aussi bien. Mais bon, apparemment, ils n'ont pas remporté le marché, quoi. Donc, ils ont aussi vendu au ministère de l'Intérieur pour 400 000 euros. En tout, ils ont vendu 7 systèmes de surveillance sur le marché français. Donc, en gros, ils sont très connus au niveau français. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'ils ont vendu des choses à la Libye, donc il y a ce 4x4, et il y a surtout le système Eagle. Le système Eagle, c'est un système en fait qui permet de capter tout le flux Internet dans le pays, en Libye, de capter, de localiser des portables, le SMS, Skype, tout ça, quoi. Et ça, on s'en est rendu compte suite à la plainte d'une association qui s'appelle Sherpa, quand en fait il y a eu le printemps arabe, ils ont découvert un local, avait plein de documents sur des opposants. Et cette association a déposé plainte à l'État français en leur disant bah, « vous avez vendu un système qui a permis de torturer des gens, de tuer des gens ». Et nous, on a dit bah, « attendez, nous, le gouvernement, on n'y est pour rien parce que ce type de logiciel, en fait, ne rentre pas dans un type d'armement et donc il ne doit pas y avoir une autorisation de l'État pour faire ses exportations. Donc ils sont un peu dédouanés, mais bon.
La législation sur les ventes d'armes est hyper difficile à contrôler. Par exemple, les armes défensives ne sont pas soumises à l'embargo, ce genre de choses, quoi.
Oui, et puis...
Alors, des armes de surveillance, encore pire.
Oui, c'est encore pire. Et surtout, c'est des logiciels qui sont interdits en France parce qu'ils violent les droits de l'homme, quoi. Mm. Bon, enfin, je pense qu'ils étaient bien au courant parce qu'apparemment, alors là, je vais pas m'avancer, mais il y a Ziyadkhedin qui en a eu entendu parler pour les problèmes à Karachi, qui aurait en fait récupéré des sous dans ce contrat avec la Libye. Puis bon, ils étaient au courant puisqu'ils leur ont vendu un 4x4 qui s'appelle Shadow, là, quand on vient d'en parler, quoi. Mm. Donc en fait, oui, je reviens sur ce logiciel Eagle. En fait, on était au courant parce que dans les spy files, ils ont mis à disposition le mode d'emploi de ce logiciel. Et donc, en gros, quand on regarde ce mode d'emploi, on tombe sur des captures d'écran pour l'utilisateur, pour lui expliquer comment ça marche. Et ces captures d'écran, on a des adresses mail qui sont anonymisées. Mais c'est de façon très simple, en faisant un copier-coller sur n'importe quel logiciel de dessin, on peut désanonymiser les adresses mail. Donc là, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'opposants, en fait, qui étaient tracés et qui étaient dans ce mode d'emploi. Donc il y avait Mahmoud Al-Nakwa, qui est journaliste et écrivain libyen et qui est exilé en Grande-Bretagne, qui depuis, il a été nommé ambassadeur de la Libye en Angleterre. Il y en avait un autre qui s'appelle Ali, alors il faut m'excuser, Laougali, qui est membre fondateur du CNT, qui est un groupe d'opposition libyen, qui est devenu ministre de la Culture. Ali Ramadan, qui fait partie d'une ONG de défense des droits de l'homme. Ils ont créé un site qui s'appelle libiaforum.org. Alors donc, en fait, là, la question à MSI, ça a été posée, mais pourquoi il y a ces adresses mail là-dedans? Ben, ils ont répondu, mais c'est un logiciel qui permet en fait de tracer des pédophiles. Donc en gros, ils ont dit que ces personnes-là, parce qu'il n'y a pas que, c'était des pédophiles. Ça, c'est super. Et enfin, ils ont répondu que en fait, c'était pas eux qui avaient fait les copies d'écran, mais que c'était fourni par le client. Alors moi, je sais pas quelle société d'informatique fait faire ces modes d'emploi par ses clients. C'est complètement aberrant. Après, bon, mais ils sont un peu penauds, quoi. Parce que après, ça c'est intervenu avant cette publication et que ce soit mis public par OVNI. Et après, on s'est aussi rendu compte que dans ce mode d'emploi, en fait, il y avait toutes les adresses mail d'une banque, de la BIAT. C'est une banque, en fait, qui appartenait à la famille de Ben Ali. Et donc, bon, je pense pas que toute une banque soit des pédophiles. Et donc là, on sait pas trop pourquoi il y avait tous ces noms de banques et pourquoi la Libye devrait surveiller cette banque. Donc, là, après, c'est affaire à suivre, hein, de ce côté-là, Messis. Mais bon, moi, je tiens à le dire, c'est des gros connards. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Et il faut juste, parce que quand même, Philippe Vanier a dû rapporter bien plein de sous à sa société. Et il a été donc nommé au grade de chevalier de la Légion d'honneur, quoi. Voilà. Donc, on vend des logiciels pour, des dictateurs pour tuer toute opposition, tuer des gens, torturer des gens. Mais bon, le PDG, il est au grade de chevalier de la Légion d'honneur.
D'accord. Un grand bienfaiteur de l'humanité.
Parmi les captures d'écran aussi, il y avait des trucs sur les interceptions GSM, avec des captures de GSM aux Champs-Élysées, par exemple.
Ah oui, ça, j'ai pas pu en retrouver les infos, donc j'ai pas.
Il y avait aussi une affaire l'année dernière où l'IPSIS, c'est ça, c'est un labo universitaire à Paris, qui avait été probablement écouté par ce genre de technologie. Donc, probablement, ce genre de technologie a été utilisé en France pour des tests.
Oui, parce qu'en fait, dans leur mode d'emploi, ils ont mis des tests, on ne sait pas trop, sur une borne GSM qui est située aux Champs-Élysées. Donc, ils arrivaient à capter toutes les infos qui passaient par cette borne GSM. Et ils l'ont mis dans leur mode d'emploi, quoi.
D'accord.
Pour revenir sur le LIPSIS, ce sont des chercheurs donc, qui ont été espionnés. Et ces chercheurs travaillaient sur le Deep Packet Inspection, donc les technologies utilisées par LIPSIS.
Voilà, ils avaient des bonnes infos sur...
D'accord, ouais. Donc, c'était pas un test au hasard, on pourrait dire.
J'ai oublié d'en parler, on a oublié d'en parler des trojans.
Alors, la définition.
Voilà. Ouais.
Alors, les trojans, donc, c'est l'anglais pour Troie. Donc, ça fait référence à un cheval de Troie qui est une référence donc, à l'Iliade où le héros Ulysse fait construire un cheval en bois, le place devant les portes de la ville de Troie assiégée avec ses compagnons dedans. Et lorsque les Troyens font rentrer le cheval, Ulysse sort avec ses compagnons pour prendre la ville. Dans le monde de l'informatique, donc cheval de Troie en français, c'est un logiciel d'apparence légitime. Qui propose des nouvelles fonctionnalités, un logiciel existant ou des fonctionnalités sympathiques. Quand l'utilisateur l'exécute, les Troyens ont fait rentrer le cheval chez eux, sur son ordinateur, ce logiciel-là fait plein d'autres choses, donc destiné essentiellement à l'espionnage et à envoyer tout ce que vous faites, tous les fichiers que vous voyez passer, votre réseau, au propriétaire du cheval de Troie, caché dans son serveur et reçoit tout ce que vous faites.
Et ça, c'est une technique vieille comme Hérode, mais en informatique aussi, ça a déjà pas mal d'années. Du coup, on peut imaginer que ça s'améliore, ça doit être de plus en plus compliqué à déceler.
C'est une fois qu'un utilisateur sur la plupart des systèmes d'exploitation exécute un logiciel, ce logiciel peut faire beaucoup de choses. Et donc, si on s'assure pas de la source du logiciel et qu'on les exécute, ce que les gens ont quand même l'habitude de faire,
très largement,
ça peut amener à des conséquences fâcheuses sur sa vie privée ou la sécurité de son propre ordinateur et de ses données.
Avec une actu qui a eu lieu cette semaine sur le site download.com, donc un grand site de téléchargement offert par CNET, où dans certains paquets, ils intégraient des malwares directement, donc surtout sur des logiciels open source type Nmap. Donc c'est un logiciel qui permet de voir un peu ce que... permet de quoi
Nmap, ça permet de regarder quels sont les services ouverts sur une machine distante, ou savoir quelles sont les machines qui sont présentes sur un réseau. Donc c'est un outil qui frappe à toutes les portes, qui regarde un peu, mais qui est juste un outil de diagnostic pour voir si le serveur web est sur telle ou telle machine, quelles sont les machines présentes sur mon réseau local, ou des choses comme ça.
Et dans le cas typique des gens qui ne regardent pas ce qu'il y a quand on installe un logiciel, donc le site download.com intégrait des malwares dans ce genre d'installation. Donc normalement, si on va sur le site habituel Nmap, on trouve le package clean, mais comme les gens veulent chercher directement un autre lien de téléchargement plus rapide, ou enfin, ils vont sur Google pour chercher un lien de téléchargement, ils tombent des fois sur download.com et ils peuvent se retrouver comme ça avec des logiciels annexes sur leur ordi, hein, sans se demander pourquoi.
Et donc, comme c'était fait sous le nom Nmap, évidemment, l'auteur du logiciel libre Nmap était vraiment pas très content du comportement de CNET et download.com en disant, en plus... vous donnez une mauvaise réputation à mon outil qui est utilisé par les gens qui le téléchargent chez vous, donc c'est vraiment vraiment pas sympa.
Et donc en fait c'est des portes ouvertes pour tous les logiciels de surveillance. Et donc on a on a beaucoup parlé avec les Spyfile, et il y a un article d'ailleurs sur ONI d'un logiciel allemand, alors j'ai plus le nom en tête,
il doit être marqué sur notre page.
Bon, on le retrouve. Et en fait, il va utiliser toutes ces portes ouvertes pour faire en fait du tracking GPS.
Finn Fisher,
voilà. Et donc, sur nos téléphones, maintenant que c'est presque tout le monde a un smartphone, on a plus de portes ouvertes pour installer des trojans. Donc, sur leur site, ils montrent une vidéo où, par exemple, sur un BlackBerry, ils envoient un message de mise à jour à l'utilisateur qui va cliquer et mettre à jour son téléphone, et ça va lui envoyer un trojan. Ou bien il disait que même sur iTunes, il y aurait une faille qui n'a jamais été comblée et qui en fait est intentionnellement laissée ouverte pour permettre cette surveillance-là.
D'accord. Moi j'avais une question par rapport aux trojans et peut-être les malwares en général. Est-ce que c'est propre à des systèmes d'exploitation particuliers? Est-ce qu'un trojan va marcher sur plusieurs systèmes ou...
Alors, en théorie, il n'y a pas de raison qu'un trojan ne marche pas partout. Il faut savoir qu'un trojan va cibler un système particulier, hein, donc que ce soit un téléphone, une machine Windows, Mac. C'est relativement rare que les gens ciblent des machines Linux, mais techniquement, c'est possible. mais il faut savoir que la plupart des utilisateurs de Linux installent des logiciels via l'installeur qui est livré avec la machine, qui permet de sélectionner des outils, etc. Et que la plupart des distributions Linux, hein, que ce soit Debian, Fedora, ou d'autres, Ubuntu, ces distributions vérifient de manière avec du chiffrement des clés que les packages viennent bien de la source officielle de la distribution, et sinon préviennent l'utilisateur: attention, ce package, je ne sais pas trop d'où il vient. Alors ensuite, l'utilisateur est bien sûr mis devant ses responsabilités à ce niveau-là. Donc on a un écosystème qui est un petit peu plus sain, mais technologiquement il n'y a pas d'impossibilité de chevaux de Troie sous Linux, donc faire attention à ces messages-là aussi.
Après, il y a peut-être plus de chevaux de Troie sur Windows, par exemple, parce que c'est le système d'exploitation le plus utilisé.
Ouais. Oui, qui touchera le plus, le plus de victimes.
Une vieille affaire, l'espionnage du laptop de Greenpeace par EDF, c'était un laptop sous Windows aussi, si je me souviens bien, et utiliser ce genre de technique.
Vieux dossier.
Exactement.
Très bien. On passe à la suite ou...
Moi, je crois qu'on a terminé.
Vous avez terminé ? Eh bien, parfait.
Bon, on va juste rappeler qu'on se réunit au Theta Lab dans un container à Mixart Miris tous les mercredis soirs à partir de 21h. Oui, dans un container. Il suffit d'aller au fond de Mixart Miris et vous nous trouverez. Et que si vous venez, vous pouvez amener de la bière, elle sera bienvenue.
Une petite dernière annonce aussi, si les sujets de la neutralité du réseau vous intéressent, Benjamin Bayard, le président de French Data Network, est intervenu aux journées réseau le 25 novembre à Toulouse, et les vidéos de son intervention sont disponibles sur 2011.jres.org, et la vidéo fait une quarantaine de minutes et est très amusante et touche plein de sujets sur la neutralité du réseau, vraiment accessible au grand public. Donc je vous conseille de regarder cette conférence là et quelques autres. Donc il y a Mathieu Herbe du LAS sur IPv6 ou une intervention du RIPE-NCC, donc qui est l'organisme qui gère les adresses IP en Europe.
D'accord.
Et aussi, si vous ne pouvez pas venir ce soir au Theta Lab, il y a Mixart Miris qui fait ses portes ouvertes ce week-end, donc samedi prochain à partir de 15h. Si vous voulez découvrir Mixart Miris, le Theta Lab, ce qui se passe autour, les artistes. Et donc c'est à partir de 15h, à partir de 20h il y a du théâtre je crois, okay. Et après toute la soirée des concerts.
C'est au 12 rue Ferdinand Lassalle, métro Canal du Midi ou bus 15.
Très bien. Eh bien merci beaucoup. Prochaine chronique dans 3 semaines. Et il est temps de refermer ce magazine.